On est tous un peu indignés et surpris.
Carte blanche.
C'est pas surprenant qu'ils se réveillent avec de mauvaises surprises. Et qui n'ont juste pas trouvé le courage de dire non.
La carte blanche de Stéphane Bureau.
Stéphane, bonjour.
Coucou. Yeah. C'était pas rassurant ta précédente entrevue.
Je fais de mon mieux.
En fait, c'était pas tellement toi qui n'étais pas rassurant que la conclusion de l'exercice. On sait pas trop vraiment pourquoi, mais on a perdu le contrôle sur les chantiers.
Tout dépasse, les coûts dépassent, le plus bas soumissionnaire, les extras, puis l'inflation. C'est un petit peu hallucinant.
Ce qui est bien, c'est qu'on applique toujours la logique du plus bas soumissionnaire, mais qui, pour toujours des raisons externes ou extérieures au projet, des ajouts, fait que finalement, il coûte probablement plus cher que celui qui avait proposé l'option la plus chère. Mais on a évidemment embauché au départ le soumissionnaire qui était le plus raisonnable, puis on se retrouve avec des projets qui coûtent non pas des milliers de dollars de plus, mais des centaines de millions de dollars de plus.
Tu veux me parler des 20 ans de la guerre en Irak?
Ben, c'est un triste anniversaire. C'est un anniversaire incontournable. S'il y a une raison pour laquelle on pourrait se réjouir, c'est le souvenir de ce qu'à cette occasion, deux pays ont tenu tête à la conviction qu'avaient les Américains. Et si c'était pas une conviction, parce que c'est certainement le scénario le plus optimiste ou le plus généreux que de parler de conviction, mais qui ont peut-être tenu tête au mensonge, donc, des Américains. Donc, on peut souligner que le Canada, la France, à ce moment-là, avait fait le choix de ne pas suivre le groupe, ce qui n'est pas toujours facile quand on participe, quand on est membre, par exemple, d'une association comme l'OTAN. Il est très difficile de se dissocier de ses partenaires dans de pareilles circonstances. Nous l'avons fait. C'est des souvenirs prégnants pour moi parce que c'est 20 ans, presque jour pour jour, le moment où tu me diras quel drôle de rapprochement, mais dans le temps, se l'était rapproché. C'est le souvenir d'avoir été à Las Vegas pour la première du spectacle de Céline Dion, alors qu'elle entrait en résidence au Caesars Palace. C'était son moment de gloire. Tu me diras qu'elle en a eu plusieurs, mais c'était certainement une des pierres blanches importantes sur son parcours. Or, j'étais là, à Vegas, avec elle et d'autres, pour rendre compte de l'événement à l'époque où j'étais au téléjournal. Et c'est quelques heures après avoir envoyé l'entrevue vers Montréal, un téléphone où on me dit plutôt que de rentrer à Montréal, tu vas aller à Paris, tu vas aller au Quai d'Orsay, au Palais du Quai d'Orsay, parce que tu vas avoir une entrevue avec le ministre français des Affaires étrangères, Dominique de Villepin, alors qu'on était dans les derniers instants du bras de fer entre ceux qui résistaient, donc la France et le Canada, et les États-Unis, avec plusieurs autres pays qui voulaient, quoi qu'en pensent les Nations Unies, déclencher le conflit en Irak. Donc, des souvenirs prégnants, des souvenirs importants. Et je reviendrai sur mes regrets, parce que j'en ai de cette époque-là. Donc, aujourd'hui, 20 ans plus tard, de cette guerre en Irak, un conflit qui a, avec probablement l'intervention en Afghanistan, marqué le début de ce qu'on pourrait appeler la croisade. En fait, on pourrait pas l'appeler, c'était exactement le mot qu'a employé le président Bush, la croisade contre le terrorisme. Plus d'un pays ont été engouffrés dans cet exercice. C'est le début d'un cycle meurtrier qui va embraser plusieurs pays du Proche-Orient, coûter la vie à des centaines de milliers de victimes. C'est difficile d'ailleurs encore aujourd'hui d'avoir des chiffres précis. Tu sais, quand tu connais quelqu'un qui est mort près de toi, t'as non seulement l'impression, mais la certitude d'une catastrophe, c'est très intime. Des centaines de milliers de morts anonymes, comme le disait sournoisement Staline, ça devient une statistique. Donc, toutes ces petites histoires extrêmement vives qui ont été vécues à la première personne par les familles des personnes décédées se sont inscrites donc douloureusement dans la mémoire. Mais aujourd'hui, pourtant, on n'arrive pas à voir dans le détail des gros chiffres, plus de précision. Donc, on parle de peut-être 200 000 morts et, dans le pire des cas, 1 million en Irak. C'est plus précis du côté américain. On sait que c'est plus ou moins 7000 morts, sans compter donc les blessés, les centaines de milliers de blessés, les dommages profonds, les infrastructures qui ont été détruites, la pauvreté induite par le conflit. C'est 3 000 milliards de dollars qui ont été dépensés pour livrer cette guerre. Je parle de l'argent des Américains seulement. Puis les seuls qui ont franchement bénéficié, ce sont les fabricants de canons et tous les circuits ou les réseaux corrompus qui se sont bien graissés au passage. C'est beaucoup de bacon qui a permis d'arroser beaucoup de monde. Alors évidemment, c'est une banalité que de le souligner, mais c'est pourtant terriblement vrai. Et je te disais, si j'ai par moments des regrets sur ma pratique, c'en est un. Peut-être un de mes gros regrets de journaliste, non pas que moi ou un autre aurait pu changer le cours des choses, mais je regrette à l'époque où j'étais là au téléjournal de ne pas avoir été peut-être plus attentif et d'avoir mieux débusqué ou dénoncé cette aventure militaire qui reposait pour beaucoup sur des mensonges et de la manipulation. On le sentait. Évidemment, quand tu es dans le feu de l'action, c'est très difficile. Puis quels sont nos moyens pour voir clair? Tu te rappelles peut-être de Judith Miller, qui était la reporter du New York Times, qui a pour beaucoup écrit les raisons pour lesquelles on devait aller en guerre contre l'Irak, qui était convaincu qu'il y avait des armes de destruction massive.
Mais que ses sources l'ont manipulé. Puis...
Exactement. D'un bout à l'autre, manipulé par le bureau du vice-président. C'est inquiétant. C'est un rappel à l'ordre. Colin Powell, qui très clairement, quand il a témoigné aux Nations Unies, quand tu regardes les images, quand tu regardes ensuite son parcours, savait très probablement qu'il était en train de mentir, en fait, qu'il racontait des mensonges. C'est pas la première fois dans l'histoire que des conflits sont déclenchés sous de faux prétextes. La guerre au Vietnam s'est amorcée sur cette affaire de l'incident du golfe du Tonkin où les Américains disent avoir été attaqués, la flotte américaine avoir été attaquée par les forces nord-vietnamiennes. Or, on sait que c'était pas du tout le cas. Et cette guerre a quand même déchiré le Vietnam et les États-Unis pendant plus d'une dizaine d'années. Puis le résultat net, c'est rien. Absolument rien. Là aussi, des centaines de milliers de morts, avec dans les dernières années de la guerre, une inflation complètement sordide. Inflation qui était menée, entre autres, par le secrétaire d'État, Henry Kissinger, qui voulait amener les nord-vietnamiens à négocier, qui donc a augmenté la pression en bombardant des populations civiles. Puis, quand tu regardes ça avec la distance, tu dis, pourquoi? Il n'y a rien, il n'y a pas de logique. Le résultat n'est pas tellement plus reluisant en Afghanistan. Les Américains, il n'y a pas tellement longtemps, sont partis la queue entre les jambes en laissant derrière eux des milliards en arsenal qui est aujourd'hui, cet arsenal vendu au marché aux puces par les talibans et par moments, on peut le soupçonner même aux Russes qui font la guerre à l'Ukraine et devant lesquels nous sommes ligués. C'est le monde un peu à l'envers. Dans la foulée de tout ça, tu me diras c'est quoi le rapport, mais il y en a un. La Libye, où on semble pas avoir tellement appris non plus, parce que quand on est parti en Irak, c'était pour libérer les Irakiens, théoriquement, faire en sorte qu'évidemment on se débarrasse des armes de destruction massive, mais pousser Saddam Hussein, ce dictateur, et imposer par la force la démocratie. En Libye, on a joué dans le même film, on s'est gargarisé de nos vertus démocratiques, on a fait place nette, et c'est aujourd'hui pas probablement, certainement pire que ce l'était à l'époque où le tyran Kadhafi régnait. C'est l'enfer sur Terre. C'est un trou noir sans aucune règle de droit qui sert de base arrière à plusieurs organisations criminelles, des organisations terroristes et de paradis des trafiquants, des passeurs de ce qu'on peut appeler du bétail humain, parce que c'est comme ça que les gens sont traités, particulièrement ceux qui espèrent passer par la Libye pour traverser la Méditerranée et se rendre peut-être en Europe. Et derrière tout ça, dans ce contexte, c'est pas un amalgame. On apprenait vendredi que la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine pour le crime d'avoir expédié des enfants ukrainiens en Russie. Ça me semble évidemment sélectif ou spécieux comme choix de cible. On aurait pu s'intéresser au simple fait que déclencher une guerre, il n'y a pas fait que déplacer des enfants.
Mais peut-être que les preuves ne sont pas encore là ou... Exact, l'enquête se poursuit là-dessus, mais alors que sur les crimes de déplacer des enfants, le dossier est peut-être déjà plus étoffé. Ouais, c'est ça.
Mais si tu dis, OK, parfait, mais le président Poroshenko, ukrainien, a bombardé ses propres citoyens dans l'est de l'Ukraine sans jamais être beaucoup incommodé par la communauté internationale. C'est arrivé, on le sait. Les autorités israéliennes se livrent régulièrement des opérations d'assassinat dans les territoires palestiniens sous prétexte d'une guerre qui ne dit pas tout à fait son nom, pas non plus terriblement inquiété. C'est très difficile qu'on peut justifier ce genre d'opération légalement. Puis je parle de ce qui se fait en territoire palestinien. Les attaques aux drones contre des ennemis des États-Unis sont pas beaucoup plus légales. Je me rappelle qu'à l'époque de M. Obama, même un citoyen américain, Anwar al-Awlaki, avait été exécuté parce qu'on le soupçonnait évidemment de supporter des actions terroristes, mais sans aucune forme de procès, sans qu'il n'y ait rien. Puis c'était un Américain à ce moment-là qu'on exécutait, très loin des États-Unis. Est-ce que ce sont des crimes de guerre? Est-ce que c'est légal? Ces questions, à défaut d'avoir des certitudes, ces questions sont absolument pertinentes. Puis on pourrait les poser pour tous ceux qui ont mené des opérations militaires en Irak, en Afghanistan et ailleurs, avec tous les dommages collatéraux qu'on imagine. Pourtant, silence radio. Et c'est pas parce qu'ils n'ont pas de sang sur les mains. Donc, est-ce que les conditions sont à ce point différentes? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le conflit en Ukraine repose sur une logique qui est en tout point différente? J'en suis absolument pas certain, même si je ne justifie d'aucune manière ce qui se passe là-bas. Comment se fait-il que la distance critique qui nous permet de juger aujourd'hui avec beaucoup plus de lucidité les contours de ces nombreux conflits inutiles dont on parle, le Vietnam, l'Irak dont c'est le 20e anniversaire, l'Afghanistan. Donc, cette capacité lucide à faire le bilan ne semble pas possible à appliquer dans le contexte de ce que nous traversons en Ukraine. Notre ministre des Affaires étrangères, Mme Joly, parlait la semaine dernière, peut-être que c'était un lapsus, de changement de régime à Moscou. Donc, l'objectif, peut-être, pourrait être, comme on a voulu le faire ailleurs, de mettre un nouveau patron aux commandes. Je te rappelle, comme tu le sais probablement, que notre chargé d'affaires à Moscou a d'ailleurs été convoqué, je pense, aujourd'hui par le Kremlin pour s'expliquer sur ses lapsus. Donc, est-ce que le nouvel objectif officieux du conflit, par-delà repousser l'attaque russe, serait aussi un changement de régime? Je retiens, moi, que dans le passé récent, et pas si récent, si on remonte à 20 ans, ça n'a pas été de gros succès. Donc, comment fait-on pour apprendre et comment explique-t-on aujourd'hui qu'on puisse être à ce point convaincu de la responsabilité de Vladimir Poutine dans ce qui est objectivement horrible et qu'on n'arrive pas à se poser ce genre de questions pour nous-mêmes dans des conflits qu'on a participé à engendrer?
Bonne piste de réflexion, Stéphane. Bonne journée.
Je suis pas sûr qu'on ait des réponses à court terme, mais néanmoins.
Faut se poser des questions. C'est déjà un bon début. Salut.
Salut.